Hier soir, il y avait à l'oratoire, comme chacun sait, une conférence de Jean Vanier, qui est considéré, je me permets de le dire, dans bien des revues, comme un saint au même degré que Mère Teresa et quantité d'autres que l'on retrouve aussi dans certaines grandes églises protestantes, comme on en a fait écho il y a quelques années dans le Time Magazine et dans d'autres revues américaines ou françaises. Je vous signale que ces gens qui aujourd'hui vivent dans un état qui nous semble être un état de sainteté ne font que répondre à l'appel de Jésus, qui a été réitéré il y a quelques jours par le pape lui-même quand il a ordonné, on a pu voir ça dans la presse, cette photo admirable prise à Saint-Pierre de Rome où l'on voyait, je crois, 41 candidats à la prêtrise prostrés sur le sol de la basilique Saint-Pierre, prostrés, c'est-à-dire étendus par terre en eau blanche, des jeunes gens, des hommes, décidés d'aller jusqu'au bout et qui se font ordonner prêtres par le pape lui-même. Et le pape, à l'occasion de cette ordination, nous rapportait la presse, sous cette très belle photo, le pape a fait appel à une vie sainte. Mais que les prêtres sont des à une vie sainte. Mais que les prêtres sont des hommes comme les autres, avec des tentations, des problèmes, des difficultés. Et qu'ils doivent être soutenus dans leur aspiration à la sainteté. Mais en fait, par notre baptême, tout le monde est appelé à la sainteté. C'est pour ça que cette émission, au cours de laquelle nous parlons si souvent des saints, me semble opportune, et je l'espère qu'elle vous plaît. Nous allons parler d'une famille, justement la famille de Jean Vanier, qui est une famille constituée de gens assez étonnants, en grande partie, n'est-ce pas, comprennent son père et sa mère, Georges Vanier, qui a été ambassadeur du Canada en France, il a laissé là des traces, moi je m'en suis rendu compte plusieurs fois quand je suis allé en France, dans des endroits retirés, où on médite, où l'on prie, et les gens me disaient, « Ah, vous êtes du Canada. Ah, nous avons reçu souvent ici le général Vanier et son épouse qui venaient faire une retraite. » Je me disais, « Mais c'est incroyable, un ambassadeur qui faisait des retraites avec sa femme. » Alors qu'il y a question, et vous le savez comme moi, « Mais rien n'est impossible à Dieu et un de ses jours, tout pourra changer par les moyens qu'il aura choisis. Il nous revient à tous de ne pas faire obstacle. » Et je me demande des fois si nous ne serons pas un jour envahis de missionnaires bruns, noirs, jaunes ou de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, peut-être, qui viendront de toutes les parties du monde et qui viendront ici nous redire ce que nous avons oublié. Hier soir, il y avait à l'oratoire, comme chacun sait, une conférence de Jean Vanier, qui est considéré, je me permets de le dire, dans bien des revues, comme un saint au même degré que Mère Teresa et quantité d'autres que l'on retrouve aussi dans certaines grandes églises protestantes, comme on en a fait écho il y a quelques années dans le Time Magazine et dans d'autres revues américaines ou françaises. Je vous signale que ces gens qui aujourd'hui vivent dans un état qui nous semble être un état de sainteté ne font que répondre à l'appel de Jésus, qui a été réitéré il y a quelques jours par le pape lui-même quand il a ordonné, on a pu voir ça dans la presse, cette photo admirable prise à Saint-Pierre de Rome où l'on voyait, je crois, 41 candidats à la prêtrise prostrés sur le sol de la basilique Saint-Pierre, prostrés, c'est-à-dire étendus par terre en eau blanche, des jeunes gens, des hommes, décidés d'aller jusqu'au bout et qui se font ordonner prêtres par le pape lui-même. Et le pape, à l'occasion de cette ordination, nous rapportait la presse, sous cette très belle photo, le pape a fait appel à une vie sainte. Mais que les prêtres sont des à une vie sainte. Mais que les prêtres sont des hommes comme les autres, avec des tentations, des problèmes, des difficultés. Et qu'ils doivent être soutenus dans leur aspiration à la sainteté. Mais en fait, par notre baptême, tout le monde est appelé à la sainteté. C'est pour ça que cette émission, au cours de laquelle nous parlons si souvent des saints, me semble opportune et je l'espère qu'elle vous plaît. Nous allons parler d'une famille, justement la famille de Jean Vanier, qui est une famille constituée de gens assez étonnants, en grande partie, n'est-ce pas? Comprennent son père et sa mère, Georges Vanier, qui a été ambassadeur du Canada en France, il a laissé là des traces, moi je m'en suis rendu compte plusieurs fois quand je suis allé en France, dans des endroits retirés, où on médite, où l'on prie, et les gens me disaient, « Ah, vous êtes du Canada, ah, nous avons reçu souvent ici le général Vanier et son épouse qui venaient faire une retraite. » Je me disais, mais c'est incroyable, un ambassadeur qui faisait des retraites avec sa femme, alors qu'il était surchargé de travail et de mondanité inévitable. Et ensuite, eh bien, Georges Vanier, le général Vanier, a été nommé gouverneur général du Canada. C'est un peu curieux pour un homme qui aspirait à la sainteté, tel qu'on peut le lire dans sa vie, car sa vie a déjà paru il y a quelques années. Et ces jours-ci, on publie, grâce à des conversations de Pauline Vanier, sa femme, des conversations enregistrées il y a déjà de nombreuses années, on publie un portrait de Pauline Vanier. C'est pour ainsi dire une biographie, même si on s'en défend. Car au fond, avec des photos d'ailleurs, on relate la vie de cette femme étonnante qui est la mère de Jean Vanier. Je vous rappelle que Jean Vanier a aussi un frère qui est trappiste. Le père Vanier a une très haute réputation de mystique et de profonde conviction de moine. Jean Vanier a aussi une sœur, Thérèse Vanier, qui vit en Angleterre et qui a fait énormément de bien là-bas pour s'occuper des mourants et s'occuper, comme Jean, des malades mentaux, ou si on veut, des personnes handicapées intellectuellement. Car ce sont des personnes, comme nous le rappelle constamment Jean Vanier. Jean Vanier, je vous le signale, est né en 1928. Il est donc encore assez jeune, au fond. Il est né au Canada, mais il a fondé en France la première communauté de l'Arche en 1964. L'Arche, il y en a plus de 100 dans le monde. L'Arche, en 30 ans, s'est développée de façon fantastique. L'Arche, c'est une communauté ou un ensemble de communautés répandues vraiment à travers le monde et qui offre aux personnes handicapées et à celles qui partagent la vie de ces personnes-là un foyer où elles peuvent s'épanouir et développer un esprit d'appartenance. J'ai fait un film là-dessus en 1968 qui m'a profondément bouleversé, car réaliser un film sur Jean Vanier et sur l'Arche de Trelibreuil, ça marque quelqu'un. Moi, ça m'a profondément marqué. Jean Vanier est un conférencier évidemment recherché. Je voyais dans un journal de Toronto que sa conférence à Toronto était « sold out », comme on dit en anglais. Tous les billets avaient été vendus en quelques heures. C'est un prédicateur réputé internationalement, bien que laïque. C'est l'auteur aussi de nombreux ouvrages, beaucoup plus qu'on pense. Il en a publié de très beaux, magnifiques. Des témoignages toujours de cette tendresse qu'il a pour les plus délaissés. Dans la vie de Pauline Vanier, que j'ai en main ici, j'ai pu lire, en somme, dans la préface de Jean Vanier, des révélations qui m'ont presque surpris. Il dit que sa mère a vécu les dernières 20 années de sa vie, en somme, du début des années 70 au moment de sa mort, au début des années 90, elle a vécu à Trelibreuil, auprès de lui, parmi les siens, parmi sa communauté étonnante, étrange, que j'avais filmée en 68. D'ailleurs, Madame Vanier avait tenu à avoir une copie de ce film, et j'en suis très fier de le lui avoir offert. Et Jean Vanier écrit « Mes parents étaient très unis et ont vécu 46 années d'une vie conjugale belle et profonde. Ma mère éprouva une très grande impression de solitude à la mort de mon père. Ma communauté fut heureuse de l'accueillir et elle-même le fut véritablement avec nous. C'est comme si la communauté lui avait donné une terre où s'épanouir, un lieu où, 20 années durant, elle put trouver une unité entre ses nombreux dons et ses aspirations spirituelles. À l'Arche, elle découvrit un nouveau sens à sa vie. C'était vraiment un énorme changement à comparer à cette vie dans cette maison d'Ottawa où les gouverneurs généraux habitent, n'est-ce pas? Ce sont des maisons de 50 pièces, où on reçoit dans une année facilement 10 000 personnes, où on est traîné d'un bout à l'autre du pays à assister à des réceptions, des banquets, toutes sortes de choses qui doivent être bien étranges pour une femme comme elle et pour son mari. Je pense que, on le voit d'ailleurs dans le livre, elle y était peu préparée, elle a fait quelques bévues au début, des bévues sans gravité. Exemple, on lui dit qu'il faut qu'elle accepte que les gens lui fassent la révérence, et les femmes qui s'inclinent, n'est-ce pas? Mais elle a oublié, puis elle a fait la révérence en même temps, puis les deux femmes, elle et l'autre, se sont frappées la tête. Et elle raconte ça en riant, et c'est vraiment assez amusant. Sa mère souffrait de la vie communautaire à l'Arche. Elle trouvait ça difficile. C'était un très grand changement de vie, dit Jean Vanier. Il n'y a pas de communauté parfaite, ajoute Jean Vanier dans sa préface. Et la communauté de Trolley, c'est tout près de Compiègne, ça. La communauté dans le nord-est de la France, au nord-est de Paris. Et la communauté de Trolley ne fait pas exception à la règle. Ma mère non plus n'était pas parfaite. Il lui arrivait d'être en colère contre la communauté et contre moi. Ses différends étaient également dus à ses forces qui diminuaient, vieillissement qu'elle avait du mal à accepter. Je me souviens de l'avoir vue plusieurs fois chez elle. Elle habitait tout près de chez moi, pas loin de Guy et Sherbrooke où j'habite. Elle habitait une jolie petite maison retirée à l'intérieur d'une cour fleurie, où il y a là des maisons de petits passés anglais, très jolies d'ailleurs, mais c'est pas des maisons riches. Elle était veuve, elle habitait donc à Montréal, et j'allais la voir de temps en temps. J'avais fait un film sur l'hôpital Saint-Charles-Borromée, et elle avait accepté de me donner une brève entrevue qui terminait ce film d'ailleurs, mais par après, elle n'a jamais voulu m'accorder d'autres entrevues. Je l'ai relancée à Trolley-Breuil, quand elle vivait là-bas. J'y suis allé quelquefois, elle me recevait très gentiment dans sa maison. Mais je la sentais parfois, certains jours, un peu nerveuse. J'ai l'impression que le poids, au début, les premières années, était un peu grand, d'être entouré de tant de gens qui souffrent dans leur tête, qui ont des problèmes graves. Ça n'est pas facile. D'ailleurs, Jean Vanier parle de ses moments de colère, il dit « Ces mouvements de colère l'accablaient et l'emplissaient de culpabilité et de solitude. » Oh, c'était pas une femme qui était toujours en colère, loin de là. C'était rarement en colère. Mais ça dénote qu'elle avait du caractère. Rappelons-nous qu'hier, je parlais de ce futur saint, le frère Théophanius des Frères Écoles Chrétiennes, qui, comme son père, avait un tempérament un peu à l'emporte-pièce quand il était jeune. Saint François de Sales était comme ça, lui, qui est le saint des doux. Il avait un tempérament à l'emporte-pièce. Et je connais d'autres, des grands mystiques même de ce siècle, qui avaient des moments de colère. C'est des moments d'impatience, et c'est le poids que l'on porte souvent avec soi, même quand on cherche Dieu avec beaucoup d'intensité. Jean Vanier termine son introduction en disant « Ce livre n'est pas une biographie. Je pense néanmoins qu'il pourra aider certains à s'identifier à ma mère en leur donnant l'occasion de mieux connaître sa vie si féconde et si pleine d'espoir et d'amour. » C'est exactement ce que l'on trouve dans ce livre. C'est exactement ce que l'on trouve dans ce livre. La vie d'une femme, au fond, dans un sens comme les autres, même si elle est née d'une assez grande famille, c'était une salaberry. Bon, elle a épousé un homme qui a eu une carrière extraordinaire. Ils ont eu des enfants absolument exceptionnels. Bon. Mais il n'en reste pas moins que Si elle est morte paisiblement dans son sommeil à Trelibreuil dans sa petite maison, le 23 mars 1991, juste avant célébrer son 93e anniversaire, il est intéressant de savoir comment elle est arrivée à mourir calmement, en paix, dans une petite maison pauvre, elle qui avait parcouru le monde dans la richesse et les merveilles. Et alors, en 1972, cette veuve de Georges Vanier, qui était l'un des gouverneurs généraux les plus admirés du Canada pour sa bonté, a décidé, comme j'ai dit, de renoncer à une vie toute de confort et de bien-être, et se rendre en France. Elle avait 73 ans. Il faut être décidé. Il faut vraiment être décidé pour faire quelque chose comme ça. Il faut dire que les Vanier avaient le souci de la famille, un grand souci de la famille. Ils étaient convaincus que bien des maux de notre société ont pour cause le déclin de la famille, comme elle dit. Et c'est pour ça qu'ils ont convoqué, elle et son mari, en juin 64, il y a 30 ans, un congrès canadien sur la famille, et c'était le premier du genre. Et la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu dans les jardins de la résidence du gouverneur à Ottawa demeure un événement unique dans l'histoire du Canada. C'est fait à l'initiative des Vanier, un congrès qui s'est ouvert par une bénédiction prononcée à l'unisson par les responsables de 17 communautés religieuses différentes, hein, 17 églises différentes, je dis bien. Et ce congrès a débouché sur la création de l'Institut Vanier de la famille. Et c'est une agence de recherche dont le but est de renforcer l'unité et l'intégrité de la famille. Et cet institut poursuit ses activités encore aujourd'hui. Et à la mort de Georges Vanier en 67, Pauline a continué à porter un grand nombre de responsabilités. Elle a été décorée de toutes sortes de choses, hein, de décorations, elle a obtenu des doctorats. Elle était portée au nu. Il faut dire qu'elle était extrêmement charmante. Moi, toutes les fois que je l'ai rencontrée, c'était une femme extrêmement attentive et sympathique. Beaucoup ignorent que son chemin sur la terre a été jalonné de doutes, autant que de certitudes. C'était jalonné de souffrances, autant que de joies. Il y a eu des tragédies dans sa vie, mais des triomphes. Et en lisant cette vie, on se rend compte qu'elle a même perdu la foi à un moment donné. Tellement sa souffrance était grande et sa dépression était grande. Dans ce livre de Pauline Vanier, qui est sans doute allée quelquefois à Windsor, j'imagine bien, puisqu'elle est allée en Angleterre bien des fois, étant l'épouse du gouverneur général, mais aussi durant la guerre, elle a traversé... Vous savez que Jean Vanier a quitté sa famille à 13 ans pour entrer dans la marine. On parle souvent autrefois des saints qui sont entrés en religion à 13 ans. Eh bien, Jean Vanier était entré en religion, si on peut dire, en entrant dans la marine. C'est hallucinant, mais pendant la guerre. Et ses parents, qui hésitaient beaucoup, l'ont laissé quand même partir tellement Jean y tenait. C'est un cas exceptionnel. Mais ça avait libéré jusqu'à un certain point sa mère, même si elle avait d'autres enfants, qu'elle a pu confier à des gens sérieux pour aller en Angleterre travailler pour... le Canada et l'Angleterre, c'était des gens d'un grand courage dans leurs perspectives et leurs convictions personnelles que nous devons évidemment respecter. Un jour, on dit que les Vanier ont organisé une soirée costumée pour tout le personnel de la résidence du gouverneur général, et les Vanier se sont déguisés en chevaux de trait avec un harnais en cuir sur leurs épaules. Ils sont entrés clopin-clopin dans la salle de bal en tirant un traîneau. Et l'aide de camp, Bruce Stock, raconte, Pauline, en tête, entra au galop en reniflant comme un cheval. Chaque fois qu'elle s'arrêtait, elle tirait sur les rênes, renversant presque le gouverneur général. Des anecdotes peu étranges, hein? Mais c'était vraiment des gens qui savaient s'amuser, mais qui savaient surtout pratiquer la charité. Quel que soit leur emploi du temps, les Vanier commençaient toujours leur journée en assistant ensemble à la messe, en général dans la petite chapelle qu'ils avaient aménagée dans une chambre de leur résidence. C'était la première fois qu'il y avait une chapelle à la résidence du gouverneur, Et cette petite pièce devient très importante pour nous, dit Pauline Vanier. Le dimanche, nous allions dans les différentes églises d'Ottawa. Cela nous donna l'occasion de rencontrer toutes sortes de gens. Quel accueil nous était réservé, c'était même touchant. Et alors donc, un incident lui fit comprendre qu'elle était inconsciente et courageuse quand même alors qu'elle perdait la vue. Elle disait, nous étions sur la plateforme arrière de notre train alors qu'il quittait la petite ville que nous venions de visiter. Lorsque je vis ce que je crus être, un terrain de jeu rempli d'enfants. Alors je leur fis de grands signes de la main et me demandai pourquoi ils semblaient figés au sol et ne me répondaient pas. Alors, écoutez bien ça, on lui dit, « Votre Excellence, ne vous donnez pas tant de mal, c'est un cimetière que nous longeons. » Comme quoi, elle était presque aveugle. Sa méprise nous fit éclater de rire, dit-elle, mais décida également de me faire opérer. Elle s'est fait opérer, elle a retrouvé la vue, et elle s'est consacrée vraiment à un tel apostolat, tout en étant l'épouse du gouverneur général, qu'elle a un peu transformé, au fond, cette fonction qui peut sembler un peu étonnante aux yeux de bien des personnes, accessoire, une fonction accessoire, mais ça peut devenir une fonction de grand service auprès des plus délaissés, des plus pauvres, dans les hôpitaux, les hospices, les orphelinats, etc. Elle raconte aussi que c'était un contact direct avec les Canadiens que de traverser ainsi le Canada, et la meilleure façon de connaître leurs attentes, leur état d'esprit. Et la plupart du temps, nous étions merveilleusement accueillis. Seule la Colombie-Britannique nous manifesta une hostilité évidente, surtout la première fois, je me rappelle que le premier ministre de la province n'était pas sûr d'aimer avoir un gouverneur général canadien-français, et la population non plus d'ailleurs. Et notre seconde visite se déroula beaucoup mieux. Je pense que les gens avaient découvert qu'après tout, nous n'étions pas si mal, même si nous étions Canadiens-Français. Je ne suis pas certaine que nous ayons réussi à convaincre le premier ministre Bennett, mais nous nous fîmes de bons amis en Colombie-Britannique et fûmes par la suite très bien accueillis. Alors, c'est dire qu'elle a travaillé, évidemment, à l'union de ce Canada qui est toujours en grande difficulté. Elle rapporte aussi que Charles de Gaulle étant très occupé, Pauline Vanier eut surtout l'occasion de mieux connaître son épouse, la fameuse Yvonne, n'est-ce pas? Je lui proposai une excursion en voiture, mais elle me répondit, « Je préfère passer mon temps à attendre mon mari. Je n'ai jamais été très utile à mon mari, mais j'ai toujours été présente à son retour et la seule autre chose que je sache faire pour lui est de lui beurrer son pain au petit déjeuner. » Et alors, Pauline Vanier ajoute que cette femme, Yvonne de Gaulle, avait une grande humilité, toujours dans l'ombre, mais toujours présente. Et elle ajoute, « Vous rendez-vous compte, elle n'a jamais quitté son mari de toute la guerre. Pendant toutes ces années, elle dut également s'occuper de leur enfant handicapé mental. » Saviez-vous que les De Gaulle avaient un enfant handicapé mental, qui mourut à Londres à l'âge de 17 ans. « C'était la dernière fois, ajoute Pauline Vanier, que je les voyais au Canada, et ils furent d'une extrême gentillesse avec nous. » De nombreux détails comme ça, des anecdotes sympathiques, il y en a plein. Mais il y a aussi plein de réflexions en profondeur, de détails merveilleux et de très belles photos. Je crois que c'est un livre qu'on peut lire avec beaucoup de profit. C'est de Deborah Cawley et son mari George Cawley, C-O-W-L-E-Y, Portrait de Pauline Vanier, avec une préface de Jean Vanier, chez Novalis. Je vous signale aussi, chez Novalis, La spiritualité de l'Arche, par Jean Vanier lui-même, ainsi que L'histoire de l'Arche. Ce sont deux petits livres extrêmement intéressants de Jean Vanier. Ce qui compte chez Madame Vanier, on a pu le voir, comme chez son mari, c'est l'humilité, la simplicité, le sens de Dieu, le sens de l'essentiel qu'ils ont transmis d'ailleurs à leurs enfants. Et je voyais dans le journal qu'on vient de découvrir le plus grand tombeau pharaonique, 67 chambres. Il a été apparemment construit pour 50 des 52 fils du roi Ramsès II en Égypte, qui a vécu de l'an, disons, 1300 avant Jésus-Christ à l'an 1235. C'est un des plus célèbres rois, n'est-ce pas, de la 19e dynastie. Il s'agit du plus grand tombeau pharaonique découvert jusqu'à présent, mais qu'est-ce que tout ça donne? Quand on pense que cet homme n'a vécu que quelques années, a laissé un nom, de nombreux enfants dans des tombeaux, qu'a-t-il laissé vraiment de plus? Et nous allons parler d'un petit frère convert de rien du tout, Saint Pascal Bellon. On entend souvent ce nom, d'autant plus qu'il y a une paroisse Saint-Pascal-Bellon à Montréal, à Côte-des-Neiges. Et on s'aperçoit, quand on étudie la vie de ce franciscain, de ce frère convert franciscain, que vraiment, quand Dieu s'empare de quelqu'un, il le dévore. Hein. L'Esprit-Saint est d'une puissance incroyable. Et si on lit ou on analyse les vies de ces saints étonnants et étranges, on peut se dire, mais qui suis-je? Je ne crois pas que c'est la façon de penser qu'il faut avoir. Et on ne doit pas penser de cette façon. Je crois que la plus belle façon de se dire des choses à soi-même quand on regarde la vie de ces grands saints, c'est de se dire, si, mon Dieu, tu peux faire tant de choses au cœur de quelqu'un de si petit, moi aussi qui suis si petit, faisant de petites choses. Et ces petites choses qu'il fera sont déjà de grandes choses. Car tout ce que Dieu accomplit est grand et merveilleux. Mais il resplendit en Pascal Bellon d'une façon étonnante. C'est le patron, je tiens à le signaler comme ça en passant, c'est le patron de mon petit-fils Pascal, qui a 10 ans, qui vient de faire sa première communion avec beaucoup de convictions spirituelles. Et c'est aussi l'anniversaire ces jours-ci de la mort de mon fils, son père, il y a 1 an. Et mon fils écrivait quelques jours avant sa mort à Pascal, « N'oublie jamais, Pascal, que le plus beau cadeau dans la vie, c'est d'aimer Dieu. » Fils son père, il y a 1 an. Et mon fils écrivait quelques jours avant sa mort à Pascal, « N'oublie jamais, Pascal, que le plus beau cadeau dans la vie, c'est d'aimer Dieu. » Que mon fils ait écrit ça à mon petit-fils, me laisse croire que malgré tous les problèmes, nous étions ensemble parvenus à l'essentiel. N'oublie jamais, Pascal, que le plus beau cadeau dans la vie, c'est d'aimer Dieu et ta famille avec foi. J'étais tellement bouleversé par cette dernière lettre de mon fils à mon petit-fils que je tenais à vous en faire part. Elle rayonne d'ailleurs de l'esprit même de Saint Pascal Bellon. Saint Pascal Bellon, qui est le patron des congrès eucharistiques. C'est un homme centré sur l'Eucharistie, centré sur l'hostie, centré sur la messe. Un homme sans instruction, un homme né dans des conditions extrêmement médiocres, de parents très pauvres, et pourtant, il fut canonisé de façon retentissante, pas tellement longtemps après sa mort. Il est né en Espagne en 1540, c'est-à-dire au moment à peu près de la découverte du Canada. Il est né au royaume d'Aragon, dans l'évêché de Sigüenza. Et son père, qui s'appelait Martin Bellon, et sa mère s'appelait Isabella Jubera, c'est Joubert en fait, Isabelle Joubert, j'imagine qu'il y a des Isabelle Joubert ici au Québec. C'était la mère de notre saint. Il est né le jour de Pâques, c'est pour ça qu'on l'a appelé Pascal. Et ça lui a permis, cette grâce qu'il a reçue à la naissance, plus tard de faire sortir du tombeau de leur désordre, comme on dit, une infinité de personnes. Il l'a fait par sa parole, par son exemple. Et il a permis à bien des gens
de parvenir à, dès ici-bas, une heureuse résurrection, comme on écrit dans sa vie. Quand on le regarde, on se dit, cet homme qui pratiquait des pénitences terribles et qui vivait très pauvrement, mais très très pauvrement, comme frère convert franciscain en Espagne au XVIe siècle, c'était quelqu'un, au fond, qui semblait peu capable de grandes choses. D'ailleurs, dès qu'il a eu l'âge de raison, on le voyait réciter très souvent le Notre Père. Il aimait le Notre Père. C'est curieux qu'un enfant si jeune s'attache à cette prière qui nous a été donnée par Jésus lui-même, comme on sait. Le Notre Père, il y trouvait une grande beauté. Il se faisait un plaisir aussi de se prosterner devant la majesté de Dieu, disait-il à ses parents. Il concevait de Dieu une très haute idée, dès sa plus tendre jeunesse. Il faisait ce qu'il pouvait pour aller souvent dans les églises, et il y demeurait si longtemps, dit-on, que ses parents étaient obligés de l'aller chercher pour lui faire prendre un peu de nourriture. Et lorsqu'il a eu 7 ans, ses parents ont été obligés de le mettre au service d'un bourgeois, car ils étaient très pauvres. Heureusement, ils sont tombés sur un homme qui était bon. Il a pris soin, pour quelque temps, des bestiaux de ce bourgeois. Il avait des troupeaux divers. Et puis, il allait dans un couvent où il voulait entrer, et il s'y faisait instruire un peu, un couvent de franciscains. Il visitait souvent leur église, il assistait aux offices que les franciscains chantaient, les vêpres, les matines, etc. Et c'était aussi un lieu ordinaire pour lui pour entendre la messe, pour recevoir le sacrement de pénitence, c'est-à-dire de la réconciliation, comme on dit bien aujourd'hui. Puis il édifiait tellement les religieux par sa modestie et son recueillement que s'il l'avait rejeté au début parce qu'il le trouvait trop pauvre, trop simple, trop instruit, trop innocent, parce qu'il était jeune encore, bien, sa ferveur paraissait tellement dans toute sa conduite qu'ils se sont mis à l'admirer, à l'aimer, puis finalement ils se sont laissés plier, puis ils l'ont pris en qualité de postulant pour essayer, pour voir s'il pouvait devenir vraiment moine franciscain. Son humilité est devenue de plus en plus profonde avec son engagement religieux. Sa charité est devenue plus ardente et son obéissance beaucoup plus prompte, beaucoup plus rapide. On dit que sa pauvreté est même devenue plus grande, lui qui vivait très pauvrement. Et son esprit de prière est devenu beaucoup plus vibrant. Puis, et c'est la coutume à l'époque, ses mortifications sont devenues plus austères et en bien plus grand nombre. On retrouve ça souvent, on peut se dire, ces saints devaient être un peu masochistes. Il semble pas du tout d'après la vie de saint Pascal Bélon. Il a persévéré dans cette ferveur pendant tout le temps de son noviciat, puis il a fait profession, et la cérémonie fut faite après avoir publiquement prononcé ses vœux. Il a signé. Et puis, ça a été pour lui un motif encore plus grand de se faire plus parfait. C'est souvent le cas chez les gens qui s'engagent comme ça. Le fait de signer, de s'engager, c'est un peu comme dans l'amour. Un véritable mariage renforce l'amour chez les gens qui sont sérieux et sincères dans un vrai mariage chrétien. On l'a consacré Pascal Bélon aux soins des malades. C'est un emploi qui convenait tout à fait à ses désirs, puis il aimait s'occuper des malades. Pourtant, beaucoup de gens ont du dégoût pour ça, surtout à l'époque, c'était pas facile. On n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, mais il aimait tendrement les infirmes. Il les servait comme Jean Vanier, avec une grande humilité. Il les soulageait avec beaucoup d'application, puis il les consolait dans leurs maux. Il cherchait à élever leur esprit abattu. Les pauvres étaient le second objet de sa tendresse de son cœur. Il ne se lassait pas d'avoir une haute estime de l'état des pauvres parce qu'il y trouvait Jésus-Christ lui-même. Ça me rappelle quand mon fils entrait souvent le soir désespéré. Je le voyais dans cette expression de tristesse, les traits tendus. Il avait 20 ans. Et un jour, j'étais en France et j'ai aperçu un crucifix du 18e siècle en ivoire. Et le Christ en croix avait la même expression et je l'ai acheté immédiatement. Je lis toujours ce crucifix qui me fait penser à mon fils et à la souffrance des petits, des pauvres, des abandonnés. Pascal Bellon embrassait ses pauvres avec amour. Il se plaisait à les instruire avec une grande patience, une extrême charité. Il priait ses supérieurs de lui donner la permission de leur distribuer même la meilleure partie de ce qu'il avait à manger. Il recueillait avec grand soin et avec propreté tous les restes de la communauté après le repas, puis il allait donner ça aux pauvres. Il observait sagement de jamais ne leur faire que des charités convenables. Mais il tenait toujours à les instruire, à leur réciter le Notre Père auquel il était très attaché, et certaines prières. Il essayait de les sanctifier. Il essayait de leur donner, comme Jean Vanier le fait avec ses pauvres, un esprit de patience et un esprit de piété. On retrouve comme ça à travers les siècles, je vous l'ai dit, je vous le répète, la même sainteté, le même Esprit Saint qui anime les saints. Toujours. Il pratiquait dans cette pensée aussi de grandes austérités que ses supérieurs ont été obligés de modérer. Il allait nu-pied, portait une ceinture de fer, je ne recommande ça à personne. Parce qu'il marchait même nu-pied dans la neige, sur les épines, les cailloux. Il allait être découvert par des grands froids. Il jeûnait outre mesure. Il portait des habits vils et usés. On dit qu'il couchait sur 2 planches. Il avait pris un espèce de gros caillou qui lui servait d'oreiller. C'est allé bien loin. Moi qui souffre d'insomnie, ce serait terrible. Il apportait aussi une croix de bois qu'il avait fixée au mur, et c'était toute la décoration de sa cellule. Il ne voulait rien d'autre. Il passait souvent des nuits à prier. Il entrait dans de vifs sentiments de présence de Dieu. La présence de Dieu lui était tellement forte. Il avait toujours une haute estime pour Dieu. Il tombait dans le ravissement. Et c'est les témoins au procès de canonisation, ses propres confrères. Car souvent, les saints comme ça sont un poids pour les confrères. Parce qu'ils se disent, qui suis-je? Moi, je n'ai rien de tout ça. Et c'est très dur, paraît-il, que de vivre en compagnie des saints. Et alors, lui, il tombait dans le ravissement, puis on l'apercevait même, et ça, vous hésiterez à le croire. Enfin, je vous le dis quand même. On l'apercevait suspendu en l'air par les excès, comme on dit, du divin amour. Vous direz, c'est pas possible. Pourtant, Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, à la même époque, ont été vus plusieurs fois dans des colloques, à travers la grille, et soulevés tous les deux en l'air. Il y a des témoins de ça, des témoins sérieux. On peut envoyer promener ça et dire que ce sont des foutaises. Si vous voulez, moi j'y crois, parce que les témoins sont sincères et vrais. Et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas vrai. Et il avait tellement une grande dévotion pour le Saint-Sacrement, tellement d'amour pour Jésus dans l'hostie, ça lui causait des transports énormes. Il ne se lassait point de demeurer devant l'autel, devant le tabernacle. C'est une grâce singulière qu'il avait reçue aussi. Un jour, un ange est venu lui porter, dit-on, la Sainte Hostie. Et quand il le rapporte, paraît-il, on ne pouvait que le croire. Il avait aussi une très grande dévotion à la Vierge, qui l'honorait, disait-il, comme la vraie mère de Dieu, la reine des anges, la souveraine des hommes, l'asile des pécheurs, la protectrice des justes, la consolatrice de tout le genre humain. Il lui donnait des très beaux titres. Il était devenu petit à petit fort savant. Les théologiens les plus habiles étaient dans l'admiration de l'entendre parler avec pénétration des points les plus difficiles de la théologie. C'est curieux que ce frère convert, Saint Pascal Bellon, ait pu acquérir comme ça par la simple raison et la simple contemplation des connaissances si profondes que le père Jean de Ximénès ou de Jiménez, qui est le premier auteur de la vie de notre saint, assure que, l'ayant consulté sur des questions très obscures et très difficiles de l'écriture sainte et de la théologie, il a trouvé, dans les réponses de Pascal Bellon, des lumières et des éclaircissements qu'il n'avait point vus dans les livres des plus grands docteurs. Il en est de même du père Emmanuel Rodriguez, connu des savants pour ses excellents ouvrages, il qui dit qu'ayant eu une longue conversation avec le frère Pascal Bellon, eh bien ce franciscain lui avait parlé des grandeurs de Dieu et des mystères de la religion d'une manière si élevée qu'il n'avait jamais rien, oui, de si sublime. D'autre part, un ancien professeur de théologie, voulant connaître par lui-même ce qu'on disait de Pascal Bellon, si ce qu'on disait de lui était véritable, lui fit plusieurs questions sur ce qu'il croyait de plus difficile à expliquer, tant dans la théologie que dans la Bible. Et après avoir reçu ses réponses, il avoua publiquement que cet humble religieux, sans formation, sans études, était un des si petits de l'Évangile auquel Dieu se plaît de révéler les plus hauts mystères qu'il cache aux savants et à ceux qui font gloire d'avoir une profonde érudition. Deux savants théologiens, d'ailleurs, de la Compagnie de Jésus, des Jésuites, qui ne connaissaient pas le frère Pascal, s'étant trouvé avec lui dans une conversation, le prirent pour un habile théologien, à cause de la profondeur et de la netteté qu'il faisait paraître sur des points de doctrine qu'il expliquait. Mais quand ils apprirent que ce pauvre frère n'avait jamais étudié que dans l'école qu'on pourrait appeler de l'oraison, de la prière, et au pied du crucifix, ils furent bien persuadés que sa science lui avait été inspirée par Jésus lui-même, par l'Esprit-Saint. Pascal Bellon a dicté ou a composé de petits mais très admirables traités sur la nature et les perfections de Dieu. Pas facile, ça. Sur le mystère ineffable de la Sainte Trinité, sur celui de l'incarnation du Verbe. Grande pierre d'achoppement des Juifs et des musulmans, n'est-ce pas, qui ont beaucoup de difficultés à comprendre comment nous croyons, nous, chrétiens, à l'incarnation du Verbe, seconde personne de la Trinité. Et il a écrit un petit traité là-dessus. Il en a aussi fait d'autres sur la manière de faire l'oraison, sur les trois degrés de la perfection chrétienne, sur la grâce, sur les anges même, c'est à la mode aujourd'hui, il faudrait rééditer ça, sur plusieurs autres semblables matières. Et ce fut la lecture de ses ouvrages qui a fait dire à Don Jean de Rilera, archevêque de Valence, patriarche d'Antioche, alors qu'il s'adressait au provincial des franciscains, à mon père, de quoi nous servent nos études si attachantes et si pénibles, puisque des simples deviennent infiniment plus savants par l'exercice de l'humilité et de l'oraison que nous ne pouvons être en consumant nos yeux et notre vie sur les livres. Mais sa science était accompagnée de foi et d'amour, et a été envoyé en Espagne, d'Espagne plutôt, en France, il a été envoyé en France. Puis il y avait les guerres de religion dans le temps, et les calvinistes se sont emparés de lui, et lui ont posé tellement de questions, parce qu'ils voulaient peut-être l'achever, il y avait parmi eux des fanatiques, il y avait des fanatiques des deux côtés, hein, tant chez les calvinistes que chez les catholiques, il ne faut pas oublier ça pendant ces affreuses guerres de religion. Mais ils se sont rendus compte que ce petit moine de rien du tout, qui était très pauvre et qui avait été délégué parce qu'il était très sage, ben ils ont reconnu chez lui une grande connaissance des articles de la foi catholique. Ils ont conçu une très grande estime finalement pour lui, ils l'ont laissé aller en toute liberté. Et dans ce voyage, un jour, il est arrêté comme ça chez un seigneur protestant pour demander à manger. Et comme il affirmait toujours sa foi, mais le protestant était un peu irrité, il l'avait fait enfermer dans une pièce, et c'est sa femme, une protestante aussi, qui avait reconnu chez Pascal Bellon quelque chose d'extraordinaire, puis elle l'a fait sortir discrètement pour le libérer. Et au procès verbal de pour la canonisation, peu de temps après sa mort, on fait mention d'une infinité de personnes qui déclarèrent avec serment, sous serment, n'est-ce pas, qu'elles avaient été guéries de diverses maladies par la vertu, du simple signe de la croix que Pascal Bellon avait fait sur elles. Il avait le don aussi de prévoir la mort des gens. Il en a averti plusieurs personnes. Ça peut sembler curieux. Mais on revient toujours au démon qui s'attaque aux saints. Et encore dans le cas de celui-ci, ses confrères racontent toutes sortes d'événements terribles. Ils ont vu qu'il avait été frappé par des formes invisibles. Et ça laissait des traces. Mais le saint Pascal Bellon ne s'effrayait pas plus de ces attaques. Il a été tenté par la vaine gloire, pour se dire qu'il était mieux que les autres. Mais son humilité était beaucoup plus grande que tout ça. Il savait bien que c'était des dons de Dieu et que lui, il n'était qu'un vase dans lequel Dieu remplit. Et puis, il a eu bien des moments terribles dans sa vie comme ça, mais son occupation la plus intéressante pour lui a été de conseiller les gens, de prêcher simplement auprès des autres, bien qu'il était un simple frère convert. Il a changé la vie de quantité de gens, même de prédicateurs. Il exhortait d'ordinaire tous les prédicateurs, les prêtres, à étudier l'Évangile au pied du crucifix. Il leur conseillait de méditer, en la présence de Dieu, ce qu'ils désiraient annoncer au peuple, afin que les prêtres soient eux-mêmes persuadés des vérités qu'ils voulaient enseigner aux autres, étant certains que la langue ne parle jamais qu'aux oreilles, et qu'il n'y a que le cœur du prédicateur qui parle au cœur des auditeurs. Il est mort le 15 mai 1592, au moment de la découverte de l'Amérique, c'est-à-dire 100 ans après la découverte de l'Amérique. Il avait seulement 52 ans. Il y eut tellement de monde autour de son tombeau que ce fut phénoménal. Et c'est Alexandre VIII qui l'a canonisé, le 1er novembre de l'an 1680. Je termine en saluant mon petit-fils Pascal et en vous rappelant que la foi en l'Eucharistie était très répandue dès le début du christianisme au Québec. C'est absolument phénoménal. On peut le lire cette semaine dans le dernier numéro de ce journal remarquable qui est L'Homme Nouveau, n'est-ce pas? Où des gens vont dire que c'est un journal trop de droite, mais quand même, on y trouve des choses merveilleuses, merveilleuses sur Saint-Charles Garnier, un des premiers évangélisateurs du Québec, et en 1642, au moment de la fondation de Montréal, des Hurons étaient si bien convertis à l'Eucharistie qu'ils avaient une foi qui dépasse notre foi d'aujourd'hui. Grâce à Saint-Charles Garnier, des Hurons, n'est-ce pas? 1642, au moment de la fondation de Montréal, qui a été fondée un 17 mai, je le rappelle.